les Roller Derby en action. Une émission de résonance sonore réalisée par Sofia Riboloff. Ces sports des contacts d'origine états-unienne demeurent encore peu connus du grand public. Mais pour ces athlètes, les niveaux ne cessent pas de monter. À Toulouse, nous avons plusieurs équipes d'élite. Entre eux, la Nothing Toulouse, équipe F+, champion de France en 2024. Pendant cette émission, nous allons découvrir le sport tout en s'entraînant pour les Capital Clash, tournoi qui joue un rôle crucial pour la qualification à la Coupe du Monde l'année prochaine.
Alors, le roller derby, c'est un sport de contact et d'équipe qui mélange vitesse et stratégie. Le but de chacune des équipes, c'est d'attaquer et de défendre en même temps. Tu vas avoir une personne, son rôle, ça va être de faire le plus de tours de piste possible. Parce qu'en dépassant une bloqueuse adverse, c'est un point. Donc au plus elle dépasse de bloqueuse adverse, au plus elle fait deux points. Et le rôle de la défense de cette même équipe, ça sera évidemment de faire en sorte que l'attaquante d'en face ne fasse pas le plus de points possible et ne fasse pas le plus de tours possible. En match, on est 5 personnes sur la piste. Il y a une personne avec une étoile sur le casque qui représente cette personne qui va faire le plus de tours possible. Et les autres sont considérés comme plutôt des personnes qui vont assurer de la défense. Mais parmi la défense, il y a aussi des personnes qui se détachent parce qu'elles vont venir attaquer pour permettre à l'étoile de passer plus facilement. Donc l'équipe se compose de... Ça dépend du club dans lequel tu évolues, mais globalement, tu peux avoir 5 ou 6 personnes qui vont être plutôt tendance attaquante et donc faire les tours, les jammers. Et le reste de l'équipe est composé de la défense et de personnes qui vont faire l'offense, donc aider la jammeuse.
On va se répartir bloc et jam. Okay. Les bloqueuses, vous venez avec moi.
On a des rollers quad, donc c'est les patins à roulettes, c'est pas des rollers en ligne. On est équipé de casques, de protège-dents, protège-coudes, protège-poignets, protège-genoux. Et tu peux aussi avoir un plastron qui te permet d'amortir un peu plus facilement les coups sur le thorax et les côtes.
Ouais, on a séparé le groupe en deux là pour la première partie de l'entraînement. On va faire une heure où on aura toutes les jammeuses d'un côté et toutes les bloqueuses de l'autre. Et au bout d'une heure, on se rassemble. On appelle ça les school, les jam school et les block school. On a mis des plots sur la piste. On va arriver à fond, on fait l'exercice d'agilité. Nous, on est celle qui marque les points, donc on doit être rapide et agile. On fait un exercice que pour les marquages de points. Donc on arrive à fond, on fait un tour. On a des plots des couleurs et on doit éviter tous les plots rouges qui sont nos adversaires. Et on a le droit de passer sur les plots violets et bleus qui sont nos coéquipières. Donc il faut qu'on soit lucide et qu'on soit rapide et agile. Et peut-être, si notre coach est sympa, qu'il va se mettre au milieu avec un bouclier pour qu'on l'impacte. Un bouclier de frappe, comme au rugby.
Alors, on complète en général les entraînements par du renfo, que ce soit... Souvent, c'est à la salle quand même, parce que c'est le plus simple pour pouvoir faire l'ensemble du corps. Après, il y a d'autres personnes qui font aussi des activités annexes comme la course, donc là, qui maintient le cardio. Dans tous les cas, c'est une autonomie individuelle, c'est-à-dire qu'on compte sur chacun et chacune d'entre nous pour se maintenir au mieux de notre propre forme. Donc, il n'y a pas vraiment de demande particulière, si ce n'est, il me semble, aller 2 ou 3 fois à la salle par semaine. Mais si à côté, on fait d'autres sports qui permettent de maintenir une musculature et de résister correctement en entraînement et au match, on va rien dire de particulier, quoi. Faut juste être performant sur le track et on peut y arriver chacun de plusieurs manières différentes en fonction de notre profil.
Allez, c'est parti. Je suis là. Allez. Allez, j'arrête pas. Replace-toi. Ok. Allez, on reprend. On retourne. On fait 2 fois chacune.
Une bonne jammeuse, ça va être quelqu'un qui arrive à doser, alterner la prise de risque et le moment où, au contraire, il faut être patient, patiente. Et quelqu'un qui va être capable de faire plein de mouvements différents, qui va être assez athlétique pour pouvoir pousser, mais aussi qui va être très agile. Voilà, quelqu'un d'assez complet. A l'inverse, c'est une bonne personne qui bloque. Ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus stable, mais qui est capable d'exploser quand il y a besoin d'aller reformer. Qui va être, voilà, qui a une vision de jeu et de comment s'articuler correctement avec ses coéquipières. Puisque souvent, les bloqueuses vont être en formation, là où les jammeuses vont être un peu plus seules. Mais on a quand même une notion de regarder ce qui se passe dans tous les cas et d'être capable de s'adapter au jeu.
Ok, là vous allez vous mettre par 2 bloqueuses, 1 jammeuse. Il y a des zones de 6 mètres, d'accord. Elles commencent par un plot, elles finissent par 2. Allez, 1 bloqueuse et 1 jammeuse là. Allez. C'est de la ralentir un maximum quand même. C'est bien, on la contrôle, mais on la ralentit.
En ressources humaines, on a actuellement 3 coachs. En temps normal, il y en a 4. Là, il est en ce moment à Montréal. Ce qui est chouette, c'est qu'ils se complètent vraiment tous les uns les autres. Ils apportent chacun quelque chose de particulier. Ce qui fait que c'est une équipe coaching plutôt complète. Après, en termes de sponsors, c'est les joueuses qui vont aller solliciter les marques et leur demander de l'aide. Donc en général, c'est un peu de financement selon les contrats ou par exemple un pack complet de protection qui est super chouette parce qu'en fait le roller derby, mine de rien, c'est un sport qui coûte cher. Entre les déplacements, l'équipement, on dépense vite de l'argent pour ce sport. On n'a pas forcément de manager. C'est vraiment les personnes qui composent l'équipe qui vont se proposer pour faire telle ou telle tâche pour aider à faire avancer le collectif. Il y en a qui proposent de faire du renforcement un échauffement par rapport à l'entraînement qui va arriver. Puis il y en a qui vont s'occuper de tous les déplacements, donc qui vont s'occuper de comment on y va et une fois sur place, comment on s'organise pour dormir, pour manger. Donc c'est vraiment les joueuses et les joueurs pour les joueuses et les joueurs. On est un sport qui est quand même encore plutôt très peu financé, encore peu reconnu. Donc tout ce qui est aide de la ville ou nationale, c'est compliqué à en avoir. Et encore, Toulouse, on a de la chance d'avoir un super gymnase, ce qui n'est pas le cas pour toutes les équipes en France. Il y en a qui s'entraînent encore dehors, notamment Paris, qui est une super équipe élite aussi. Et ils ont un créneau où c'est abrité, mais c'est quand même dehors, quoi. Donc, l'hiver, je peux te dire que ça pique. Et à Marseille, c'est même pire. C'est sur un terrain multisport qui fissure. Il n'y a pas d'abri, il n'y a rien. Et là, cette année, elles ont réussi à monter en élite. Donc, chapeau. Mais ça serait chouette que les conditions de ce sport s'améliorent et qu'on donne des moyens au même titre que le foot, le rugby et tous les sports un peu plus accessibles au grand public, quoi.
Il y a quelques semaines, vous avez été reçu par la ville de Toulouse. C'était une reconnaissance à l'équipe Nantes Toulouse pour son succès. Comment vous l'avez reçu ?
Déjà, c'est une invitation qu'on a demandé à avoir. Donc, c'est le club qui a contacté la mairie pour avoir une invitation pour faire la cérémonie justement des récompenses. Donc c'était de notre initiative à nous, c'était pas à l'initiative de la mairie de Toulouse. Donc on a été reçus dans la salle des illustres, donc une super grande salle, très très belle, avec un très bel accueil, de quoi manger et boire. Après on n'était pas beaucoup, c'était pour célébrer la victoire des Quad Guards, donc l'équipe mixte, et la victoire de la Nothing Toulouse. Moi je l'ai ressenti comme quelque chose dont on a vraiment fait la démarche pour l'avoir, mais pas forcément une réelle reconnaissance de la part de la ville, malgré le fait que l'équipe, que ce soit l'équipe des Quad Guards ou de la Nothing Toulouse, sont champions de France depuis plusieurs années et on n'a pas particulièrement de reconnaissance à ce niveau-là.
On va essayer comme ça, un petit peu à l'instinct, sur quatre départs chacune. Et on démarre comme ça, on changera les couleurs après. Au 5 seconds, vous faites ce que vous voulez, vous placez comme vous voulez. Les jammeuses, vous pouvez aussi changer de position, d'accord ? Essayez de voir par rapport à vos formations. Là, vous êtes placé comme ça, mais au 5 seconds, vous faites ce que vous voulez. Ah. Ok. Allez, en place.
C'est quoi votre son préféré de roller ?
Tweet tweet.
Le 5 seconds.
Ah ouais, c'est ton préféré ?
Ouais, mais moi, c'est le moment où je set up mentalement. Parce que moi, je suis jammer. Et du coup, le 5 secondes, c'est le moment où je me concentre parce que je sais qu'il me reste 5 secondes avant le départ. Et voilà.
Les deux coups de sifflet tweet tweet, ça veut dire qu'il y a une des deux étoiles qui a eu le lead. Et j'espère que c'est la mienne. Voilà.
C'était bien, il était intéressant.
Quels sont les exercices les plus courants dans un entraînement comme ça de roller derby élite ?
Eh bien, ça va commencer par des exercices en 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1, sachant qu'une formation complète c'est 4 contre 1, donc on décompose comme ça. Et après, on va faire souvent ce qu'on appelle des photos, donc c'est-à-dire un instantané d'une phase de jeu. Et en général, on termine par des départs et ou des phases de jeu complètes. Voilà.
En fait, votre truc,
c'est ce qu'on fait en ce moment.
Essayer de l'attirer, mais essayer de plonger derrière si tu peux, quoi. Ok. Allez, 5 seconds.
Moi, je m'appelle Trash Panda, mais tout le monde m'appelle Trash, c'est plus rapide. Et je suis arrivée dans le roller derby parce que j'ai toujours fait du sport, mais avant, je faisais du hockey sur glace. J'en ai fait pendant 7 ans. J'ai fait du rugby aussi, j'ai fait du judo. Je fais plein de sports de contact. Et ma famille a toujours été très, très versée là-dedans. Donc, c'était pas une découverte.
Est-ce que tu es d'accord avec les représentations de roller derby par les médias ?
Souvent, les médias, quand ils en parlent, soit ils arrivent avec très peu de connaissances et font un documentaire un peu lambda, mais bon, du coup, en filmant les entraînements, en filmant des gens dans des conditions pas toujours idéales, avec pas toujours du bon matériel. Ça donne une représentation qui est très parcellaire, je trouve. Et après, sinon, ce qu'on trouve en représentation artistique, avec les dessins, avec les vidéos, avec l'esthétique roller derby, malheureusement, c'est toujours orienté très, très sexy. C'est des filles qui font du roller, un mini-short. Alors, un petit peu moins maintenant. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans le derby. Et il y en a beaucoup qui portent des shorts. Donc. Mais bon, ce qu'il faut retenir, en tout cas, dans le roller derby, c'est que, oui, on porte des shorts, certes. Mais on est des vrais athlètes. On s'entraîne pour de vrai. On fait beaucoup de sport pour ça. Le niveau qu'on a, surtout dans les équipes élites actuellement, il est là après des années de pratique, après beaucoup de sacrifices. Donc voilà, tout ce que. Et oui, il y a une grosse partie show, paillettes, danse, musique. Et ça, c'est super fun. Ça fait partie de l'ADN du sport. Et ça permet à des gens qui sont pas fans de sport de s'y intéresser et de se retrouver dans une activité qui est physique et engageante. Mais c'est aussi conditionné par le fait de faire de la musculation, d'aller à la salle, de faire attention à ce qu'on mange, de bien dormir.
Allez, 15 secondes. On s'accroche. On va la chercher. Top. Allez, parfait.
Est-ce que le roller derby peut rentrer dans les JO?
Le roller derby, de manière générale, je sais pas. Je pense qu'il y a plein d'avis différents sur le sujet. Aujourd'hui, moi, mon avis, c'est que ce serait une occasion de fou pour permettre la visibilité du sport, de créer de nouvelles équipes et vraiment permettre une progression mondiale à ce niveau-là. Mais ça arrivera probablement jamais parce que quand on voit déjà les difficultés pour les personnes trans on en a beaucoup parlé au niveau de la natation et de l'athlétisme. En fait, c'est des personnes qui n'ont plus accès à leur sport. Et le roller derby est un sport qui est très queer, très politisé. Il y a énormément de personnes trans qui font partie de ces équipes-là. Et en fait, jamais, je pense, le roller derby mondial voudra participer aux JO si ça implique d'exclure ces personnes-là. Enfin, on roulerait complètement sur nos convictions et nos valeurs. Donc, ça n'arrivera probablement jamais. En France, on est ranké dans ce qu'on appelle la FFRS, donc la Fédération française de roller sport spécialisée au roller derby. Et à la FFRS, cette année, du coup, on est première. On a gagné le championnat de France l'an dernier. Et du coup, on le remet en jeu là, cette année pour la saison. Et au niveau européen, l'an dernier, le dernier vrai tournoi qu'on a fait, du coup, c'était les régionales pour se qualifier pour la Coupe du Monde, où on a fini deuxième. Et c'est la première fois que l'équipe peut participer aux régionales, et en plus de là, se qualifier, c'était inattendu. Après, le ranking bouge régulièrement en fonction des matchs qu'on fait. Donc, on peut monter en position ou descendre en position. Mais globalement, on se situe dans les 4-5 premières européennes. Mais ça varie régulièrement. Et au niveau mondial, du coup, le dernier tournoi qu'on a fait, c'était les mondiaux en novembre dernier. Où je ne sais plus exactement combien on a fini dans les, je dirais, 12-13e peut-être environ. Mais pareil, c'est un classement qui change tout le temps parce que du coup, là, on parle d'équipes partout dans le monde. Donc, globalement, je pense qu'on peut se dire qu'on se situe entre 13 et 15 en moyenne.
Aujourd'hui, 28 octobre, vous êtes les premières en Europe dans le ranking.
Ok, ben je ne savais pas, je ne regarde pas régulièrement.
J'ai regardé avant de venir.
Ok. Et c'est possiblement un ranking qui va être amené à changer parce que dans un peu plus de deux semaines, on fait un gros tournoi international où il sera présente, sans nous compter, quatre des meilleures équipes d'Europe ce jour-là, enfin ce week-end-là. Donc le classement risque de rebouger encore beaucoup à ce moment-là.
Mac, prête? Allez, go, vas-y.
Encore, oui!
Okay.
le tournoi dont tu parles, c'est le Capital Clash à Toulouse, les 15 et 16 novembre. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cet événement ?
Le Capital Clash, historiquement, c'est un événement que la Nothing Toulouse organise chaque année. Et le but, c'est de pouvoir faire venir des équipes qui sont très bien classées au niveau européen, voire mondial, pour pouvoir ranker ces matchs-là. Donc le but, c'est de faire le meilleur score pour pouvoir monter dans le classement. Donc c'est vraiment le but de ce week-end-là, et c'est pour ça qu'on a invité Nantes et Paris, qui sont les deux autres meilleures équipes en France. Londres, Crime et une équipe qui vient des États-Unis cette année qui s'appelle Supernova. Donc c'est assez... c'est très rare que des équipes de l'autre côté de l'océan viennent en France ou en Europe, donc on saisit vraiment l'occasion, c'est trop cool. Et c'est un week-end qui est ultra, ultra important pour nous, pour la suite des événements, sachant que la finalité, c'est de reparticiper aux Mondiaux l'année prochaine.
Oui, et cet événement, c'est ouvert à tous et toutes. Comment ça se passe ?
C'est un événement qui est ouvert à tout le monde, que ce soit des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas le roller derby. Il y a toujours des personnes qui sont là pour expliquer ce qu'est le sport, parce que ça peut être assez compliqué si on n'a pas vraiment de connaissances sur le sujet. Et c'est aussi un sport qui est hyper accessible. Donc en général, nos entrées sont souvent à prix libre. Donc en fait, les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens peuvent quand même regarder. Et si jamais les gens ont les moyens et l'occasion de donner de l'argent pour nous soutenir et nous permettre de justement faire ces matchs-là un peu partout dans le monde. Mais c'est accessible à tout le monde, même les enfants.
Alors je m'appelle Mac Roquette et mon numéro c'est 007 et j'ai commencé le derby parce que je déménageais à Amiens, j'étais seule et j'ai une collègue qui m'a parlé du roller derby et qui m'a dit viens essayer. Elle m'a dit regarde le film Whip It. Donc j'ai regardé le film et ça m'a donné envie et je suis allée m'entraîner. Et les premiers entraînements là-bas à Amiens c'était dehors. Donc c'était vraiment dans un état d'esprit faire soi-même.
Et est-ce que tu étais sportive déjà avant de commencer ?
Ouais, j'avais quand même fait du sport jeune. Et j'avais arrêté au cours de mes études, en fait, et j'avais envie de reprendre le sport. Donc j'étais dans une reprise, mais plus jeune, j'avais été sportive.
Qu'est-ce que tu en penses des représentations de roller derby dans les médias ?
Après, je ne regarde pas à fond les médias, donc je ne voudrais pas dire une idée que je n'ai pas. Mais moi, en tout cas, le film Whip It, c'est ce qui nous a donné toute cette envie. Donc je trouve que c'était important qu'il existe. Maintenant, le sport a évolué de manière plus compétitrice. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on voit moins. Mais je pense que ce qui attire à ce jour les médias, ce n'est pas le côté compétitrice, mais c'est ce que ça représente en termes américains, challenge, et les petites équipes où quand on commence le roller derby, on a envie de commencer par ça parce qu'il y a un côté émancipateur de qu'est-ce que je vais mettre, d'avoir une tenue, d'incarner un personnage. Ce qu'on a de moins en moins quand on est dans la compétition.
Tu veux rajouter quelque chose d'autre par rapport à la condition sportive ?
Aujourd'hui, en tout cas, à Toulouse, c'est sûr qu'on recherche à aller à l'international et à côtoyer les Américaines qui ont des années d'expérience de plus que nous. Donc ça nous demande effectivement beaucoup d'énergie. La compétition est rude. Et en Europe, le niveau est en train de s'élever. Donc nous, on met les bouchées doubles pour essayer de maintenir un niveau fort et surtout d'aller plus haut et d'avoir la carrure physique parce que on n'a pas les mêmes carrures aux États-Unis et en Europe, on est plus petite, surtout en Europe du Sud, parce que je considère qu'on est un peu Europe du Sud, mais ouais. Enfin, là, en tout cas, ça nous demande beaucoup d'énergie physique et beaucoup de stratégie aussi pour justement faire avec nos gabarits, quoi.
Vous avez un tournoi bientôt, le Capital Clash. Est-ce que tu voudrais dire un mot pour inviter les gens ?
C'est un événement où on va accueillir les 4 meilleures équipes européennes et une équipe qui est en train de monter à un niveau qui vient de Californie. Donc on a hâte de rencontrer. Et on va rencontrer des équipes qui nous ont gagné récemment ou qu'on a challengé récemment. Donc ça va être des matchs serrés et franchement on ne sait pas comment la finale va se terminer, donc ça va être que des matchs intéressants et avec une finale assez inconnue. Alors on espère être gagnante, mais mais faut venir pour voir.
Dernier point, je pense qu'on pourra conclure là-dessus. Je ne sais pas comment vous vous êtes senti pendant l'entraînement, mais en tout cas, de l'extérieur, l'intensité et l'engagement et le rythme même. Puisque du coup, Slash, il vous relançait, bah, vous y retourniez, etc. C'était super. Donc voilà, trop bien, on reste sur ce truc-là pour les prochains, quoi. Yes.
Les tournois Capital Clash aura lieu les 15 et 16 novembre au Gymnase des Airs, Toulouse. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre la Nothing Toulouse sur les réseaux sociaux. C'était Les Rollers Derby en action, une émission de résonance sonore réalisée, montée et mixée par Sophia Riboloff. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.